bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Eurogroup veut aider la Grèce pour sa sortie du plan de sauvetage en échange des réformes accomplies. La fin de ce plan pour Athènes est prévue au mois d'août. Nous y revenons dans un instant. Donald Trump signe un décret qui met fin aux séparations des familles à la frontière américaine. Les enfants pourront toutefois être emprisonnés avec leurs parents. Tollé chez les démocrates, vous l'entendrez. Dans ce journal encore, parole à la CGT Cheminots qui prévoit des journées de mobilisation tout au long de l'été à la SNCF. Et puis, certains sénateurs centristes veulent interdire par la loi de bloquer les universités et les examens. Ils proposent aux parlementaires un projet en ce sens. Une page est en train de se tourner pour la Grèce. Après 8 années sous programme d'assistance financière, le pays pourrait retrouver son autonomie cet été. En tout cas, aujourd'hui, les ministres des Finances de la zone euro vont chercher un accord en ce sens, Marie Viennot.
Il y a pour résumer 3 gros sujets sur la table. Tout d'abord, classique, les créanciers de la Grèce vont évaluer les mesures dernièrement appliquées par Athènes et décider quel sera le montant de la dernière tranche de prêt à la Grèce. Il y a 3 ans, le programme d'assistance avait prévu 86 milliards d'euros de prêts, mais 46 seulement ont été à ce jour déboursés. Il y a donc de la marge et même encore un peu plus puisque la dernière tranche de prêt qui serait versée pourrait aller de 11 à 20 milliards d'euros. Quoi faire du reste de l'argent? Il va falloir discuter de cette question. Deuxième sujet crucial, les mesures d'allègement de la dette grecque. Il y a 1 an, l'Eurogroupe en a acté le principe. Il doit aujourd'hui en définir les modalités concrètes. Il n'est pas question de tirer un trait sur une partie de la dette grecque, mais notamment de prolonger des prêts existants. De combien? 3 ans, 5 ans, 15 ans? C'est l'une des inconnues de la discussion. Enfin, la Grèce sort du programme d'assistance. Elle est maintenant censée se financer sur les marchés financiers. Mais pour s'assurer qu'ils seront bien un jour remboursés, les créanciers zone euro FMI de la Grèce veulent garder un œil, voire une main, sur la future politique grecque. On parle d'un programme de surveillance renforcé. Il va donc falloir aussi définir en quoi cela consiste.
Merci d'avoir pris cette décision cruciale. Sur Twitter, Ivanka Trump remercie son père en ces mots quelques minutes après que le président américain ait signé un décret pour interdire les séparations systématiques des familles de migrants à la frontière. Donald Trump reconnaît que sa fille et que sa femme, Melania Trump, ont pesé dans cette décision. Le président a donc finalement cédé face aussi à la vague d'indignation mondiale. Les précisions de notre correspondante Pauline Simonet.
Honteux, immoral, cruel, le malaise était devenu tellement grand au sein de son propre parti que Donald Trump a dû faire marche arrière. Ceux qui entrent illégalement continueront à être poursuivis, mais parents et enfants seront détenus ensemble dans des centres appropriés. Après avoir défendu cette politique pendant des semaines, Donald Trump a donc finalement signé un décret interdisant de séparer des familles. Il se présente même comme le seul président à intervenir sur ce dossier.
Personne n'a jamais agi, personne n'avait eu le courage politique d'agir, mais nous allons le faire. Il s'agit de garder les familles unies. Je n'ai pas aimé les images et le fait de voir des enfants séparés de leurs parents. Et en même temps, nous voulons garder une politique ferme et des frontières sécurisées. Nous passerons aussi par le Congrès, nous sommes en train de travailler à un texte global sur l'immigration.
Mais pour les démocrates, comme le sénateur Bernie Sanders, Donald Trump ne fait que remplacer un abus par un autre.
L'idée d'arracher des enfants aux bras de leurs parents, de les mettre dans des cages, puis de se glorifier d'un décret qui en fait ne réglera peut-être pas la situation des 2300 enfants déjà en détention, c'est tout simplement intolérable. Et ceux qui vont être désormais arrêtés à la frontière, ils pourront rester avec leurs enfants, mais ils seront en prison pour une durée indéterminée.
En signant ce décret, Donald Trump veut faire pression sur les républicains et les démocrates pour qu'ils signent un compromis sur l'immigration, qui inclurait notamment le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique. Mais l'opposition dénonce un odieux chantage politique.
Au moins 3 personnes ont été tuées en début de semaine au Nicaragua dans une offensive pro-gouvernementale pour reprendre une ville de l'ouest du pays. Ses habitants y avaient déclaré la rébellion alors que le dialogue avec l'opposition a été suspendu. En 2 mois de crise au Nicaragua, plus de 180 personnes y sont mortes.
La CGT Cheminots.
Justement, on en parle de la CGT cheminot avec Raphaël Ebenstein dans un instant. La CGT qui va appeler à de nouvelles journées de grève en juillet et en août à la SNCF. Son leader, Laurent Brun, l'a confirmé. Le premier syndicat de l'entreprise n'a pas communiqué pour l'instant de calendrier précis. Il dit vouloir donner le temps à d'éventuelles négociations avec l'État, le patronat du secteur ferroviaire et la direction de la SNCF. Il n'empêche donc que des perturbations pourraient se produire et ce, dès le premier week-end de grand départ en vacances, les 6 et 7 juillet, nous retrouvons Raphaël Ebenstein.
La CGT cheminot n'en est encore qu'au stade de l'alerte sociale déposée auprès de la direction de la SNCF, ce qui constitue le préalable indispensable avant un éventuel préavis de grève pour les 6 et 7 juillet. Mais le premier syndicat du ferroviaire semble bien déterminé à poursuivre sous une forme différente. La grève en pointillé entamée début avril. Cette fois, pas de calendrier connu 2 mois à l'avance et une chance officiellement laissée à la négociation avec l'État, le patronat du ferroviaire et la direction de la SNCF. Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT cheminot.
On nous a taxé lorsque nous avons sorti notre calendrier de décider la grève à l'avance et donc de ne pas être ouvert à la négociation. Donc là, nous sommes ouverts à la négociation sur la base des revendications des cheminots. Si ce n'est pas le cas, d'ici une dizaine de jours, nous annoncerons nos premiers appels à la grève.
Et si la CGT cheminot se dit prête à mener seule le combat au cœur de l'été, des contacts sont toujours en cours avec les autres syndicats, avec sans doute l'espoir de rallier Sudrail, au moins sur certaines dates symboliques, comme celle de réunion prévue au mois de juillet avec la direction de la SNCF à propos du nouveau pacte d'entreprise ou de la filialisation de l'activité fret.
Et parmi les points de crispation qui ont mené à ce conflit avec les cheminots, il y a la dette de la SNCF. L'État s'est engagé à en reprendre 35 milliards d'euros. Pour financer tout cela, d'après le journal Les Échos ce matin, le gouvernement pourrait lancer de nouvelles privatisations dans le même temps, en plus de celles déjà actées. Le quotidien cite ainsi Orange, Air France KLM ou encore les secteurs automobiles avec Peugeot et Renault. Jean-Jacques Urvoas, mis en examen, ancien ministre de la Justice sous François Hollande. Il est poursuivi pour violation du secret professionnel, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles au député Thierry Solaire, qui était visé par une enquête. Par la voix de son avocat, Jean-Jacques Urvoas conteste avec détermination une quelconque violation. Interdire le blocage des examens dans les universités en passant par la loi, des sénateurs centristes et sénateurs Les Républicains proposent un texte un mois après les perturbations de partiels à Rennes, Grenoble, Montpellier ou encore Nanterre. Ces sénateurs réclament jusqu'à un an d'emprisonnement et 7500 euros d'amende. Quand l'OFPRA ouvre ses portes, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a voulu hier jouer la transparence à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Souvent qualifiée d'opaque, l'une des plus grandes administrations françaises s'est donc réformée ces 5 dernières années. Et cette journée était l'occasion pour tous les professionnels de l'asile de mieux comprendre son fonctionnement, Solène Cressan.
Face au plan, à l'entrée des couloirs sinueux du siège de l'OFPRA à Fontenay-sous-Bois, ils sont travailleurs sociaux, membres d'associations, juristes. Tous viennent chercher des réponses, des précisions sur le fonctionnement de cette administration. Marjorie travaille dans un CADA en Seine-et-Marne, un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Grâce aux portes ouvertes, elle a pu assister pour la première fois à un entretien entre un demandeur d'asile et un agent de l'OFPRA.
J'ai pu réaliser ce vœu, donc de participer à l'interview d'un demandeur d'asile. Donc maintenant, c'est vraiment plus concret pour moi ce qu'ils peuvent vivre dans ces moments-là pour pouvoir accompagner au mieux les gens que je suis au quotidien.
Un peu plus tard, elle se rend dans un bureau dédié aux questions de la torture subie par les migrants. Autour de 2 agents de l'OFPRA, une dizaine de professionnels de l'asile posent leurs questions, comme Marjorie.
On accompagne beaucoup de personnes qui ont subi des tortures, donc notamment par rapport aux certificats médicaux à réaliser, qu'on est obligé de les faire faire par les médecins traitants, les spécialistes. Et du coup, ils ne savent pas forcément le contenu qu'il faut mettre pour l'OFPRA.
À l'inverse, l'OFPRA prend aussi en compte les attentes des acteurs de l'asile. Pour Pascal Brice, le directeur général, plus question de parler d'administration opaque.
Historiquement, l'OFPRA était un peu une administration un peu refermée sur elle-même. Tout ça a beaucoup changé. Nous avons totalement réformé l'OFPRA en 5 ou 6 ans. Et c'est aussi cela, c'est une volonté d'une administration de s'ouvrir à celles et ceux qui concourent à la réalisation du droit d'asile dans le pays.
Près de 800 professionnels professionnels ou bénévoles de l'asile ont participé à cette journée portes ouvertes.
L'accueil des réfugiés et plus largement le défi européen autour de cette question, nous y revenons dans moins d'une minute avec Jacques Munier. Avant cela, la protection de l'environnement qui sera bientôt inscrite dans le premier article de la Constitution française. C'est ce qu'a annoncé hier Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique à l'origine. Cela devait figurer dans l'article 34. Le climat, justement, voici quelques mots du temps à venir. Largement ensoleillé sur toute la France aujourd'hui, jeudi. De quoi profiter de la fête de la musique ce soir ou du mondial de football, c'est selon, avec notamment un France-Pérou à 17h. Côté température assez douce en matinée au nord, avec 16 degrés à Brest et Lille, 19 à Paris, mais déjà 25 ce matin à Bordeaux, Strasbourg, 27 à Lyon, 29 à Perpignan.